beat gêne. Le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch. 'Cause butchs are strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight, nice and whores.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille en masculin. Un garçon au féminin.
Septembre 2008, quelque part dans l'agglomération grenobloise, Sophie craint d'être enceinte. Lors d'une relation sexuelle avec son copain, la capote a craqué.
C'est vraiment la galère. C'est trop tard pour la pilule du lendemain. Maintenant, je vais devoir avorter. Mais où est-ce que je vais pouvoir m'adresser ?
Elle se décide à aller voir son médecin généraliste, qui lui prend un rendez-vous à l'HCE.
Mince, j'avais pas capté que HCE, c'était Hôpital Couple Enfant. Mais qu'est-ce que je viens faire là ? Je suis pas en couple et justement, j'en veux pas d'enfant.
Dans le hall, avant même de pouvoir se renseigner à l'accueil, elle tombe sur une statue gigantesque jouant avec ses trois enfants.
Envie de vie, mais c'est dingue comme nom. Moi, j'ai d'autres manières de donner la vie. Et puis, pour la nana qui vient de perdre son môme, ça doit être glauque de tomber là-dessus. Sans parler de celle qui s'amuse pas tant que ça à gérer ses trois gamins. Bonjour la culpabilité.
À l'accueil, lorsqu'elle explique qu'elle vient pour une IVG, on lui dit de suivre le fléchage.
Ça a l'air un vrai labyrinthe ici. Faut les trouver les consultations IVG. Non, j'y crois pas. Ils sont obligés de nous faire passer devant la maternité. C'est bizarre. Ah, voilà enfin le service.
Elle s'installe dans la salle d'attente. 1h30 plus tard, Sophie demande à une infirmière de passage si ça va encore durer longtemps. L'infirmière lui répond sèchement qu'ils font ce qu'ils peuvent car il y a de plus en plus de lits et que le personnel ne suit pas. Au final, elle voit le médecin qui lui programme 3 rendez-vous avant l'intervention. Un avec l'anesthésiste, un autre avec une infirmière conseillère en contraception et une échographie de datation. Sophie demande au médecin.
C'est vous qui allez pratiquer l'IVG ?
Non, mais la continuité des soins sera assurée. Tous mes collègues sont compétents. Nous sommes la meilleure plateforme technique du sillon alpin.
Ah, d'accord. Mais moi, je crois que j'ai un peu peur d'avoir mal. Alors peut-être ce qui me rassurerait, ce serait d'avoir quelqu'un à qui parler.
Écoutez, si vous doutez de votre choix, mieux vaut consulter un psychologue ou une assistante sociale. Moi, ce n'est pas du tout ma spécialité.
Le 3 novembre, Sophie arrive à l'hôpital, couple enfant, à 8h pour son IVG. À 10h, elle entre au bloc. 20 minutes plus tard, la voilà dans le couloir.
Ouf, c'est fini. Je suis soulagée quand même. J'aurais bien discuté un peu, mais c'est le désert par ici.
L'infirmière a été appelée en salle 4 pour une césarienne. C'est le principe de polyvalence des soignants.
Bonsoir.
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 Bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes bien sur Dégenré et ce soir, c'est une émission sur l'hôpital couple-enfant.
Et on est très nombreuses en studio. Hein. Nous sommes 6. Je pense que c'est un record. Et donc, avec Dino à la technique, merci à toi.
Et vous avez entendu une petite fiction. On essayait de s'imaginer comment se passeraient les avortements, les conditions d'avortement dans le futur couple. Hôpital couple-enfant qui ouvre en mai 2008, excusez-moi. Et alors pourquoi on a choisi de faire cette émission ? C'est il y a un an, en fait, il y a des groupes féministes qui se sont regroupés parce qu'on entendait pas mal de copines parler d'avortements qui s'étaient mal passés, où elles avaient été maltraitées par le personnel médical, culpabilisées, mal anesthésiées, traitées de récidivistes, etc. Et du coup, on a revisité un peu les luttes féministes et on est tombé sur des documents qui montraient comment les avortements étaient faits par le MLAC, le Mouvement de Libération de l'Avortement et de la Contraception. Et on s'est dit, oh là là, dis donc, c'était mieux avant. Et suite à ça, on a fait une projection d'un documentaire qui s'appelle « Regarde, elle a les yeux grands ouverts ». Qui retrace un peu les pratiques justement du MLAC d'Aix-en-Provence. Et on a invité le personnel de santé qui pratique les IVG à Grenoble. Et quand on est allé dans le centre médico-social de la femme, le CMSF, ils nous ont dit « Mais est-ce que vous savez qu'on va être transféré dans un hôpital qui s'appelle l'hôpital couple-enfant ?» Donc on s'est dit que c'était louche déjà ce nom. Et on a décidé de faire une enquête pour voir ben justement dans quelles conditions nous allons avorter en 2008 à Grenoble.
Et alors ce soir, c'est un peu les premiers résultats de ces enquêtes-là qu'on vous livre. Et donc ben, commençons par peut-être expliquer qu'est-ce que ça va être l'hôpital couple-enfant.
Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Alors l'hôpital couple-enfant, il est en construction sur le site actuel du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital de la Tronche. Et on peut lire dans le Dauphiné libéré du 21 novembre 2007 une interview qu'a donnée Hélène Sabat-Guillaume, directrice du site de la Tronche justement, que la livraison de la première tranche de cet hôpital, qui sera appelée périnatalité, est prévue pour mars 2008. La seconde tranche en pédiatrie est prévu pour 2010. Toujours dans le Dauphiné libéré, on annonce un coût prévisionnel de 88 millions d'euros, principalement financé par l'État dans le cadre du plan hôpital 2007, qui vise à la rénovation et la modernisation des centres hospitaliers universitaires. On retrouve également des financeurs tels que l'Agence régionale d'hospitalisation, mais aussi des mécénats privés. Alors les mécénats privés, c'est plutôt, ils investissent plutôt dans des services parallèles, on va dire, comme dans une œuvre d'art dont on a déjà parlé, qui sera une statue et dont on reparlera sûrement.
Peut-être on peut préciser, parce que je ne sais pas si c'était bien clair, donc elle représenterait dans les projets actuels une gigantesque femme qui a l'air très épanouie, souriante, et qui joue avec 3 enfants.
Les tenant à bout de bras.
Voilà.
Waouh. Et cette statue sera installée dans l'espace de vie de l'hôpital. Espace de vie entre guillemets. Enfin, je cite. Voilà. Il y a aussi dans les mécénats privés, on va retrouver aussi une maison des parents qui sera offerte par la fondation Ronald McDonald. Mais on m'a assuré qu'ils ne mangeront pas de hamburger. Et enfin, un espace partiel pour les enfants est attendu.
Et Et d'après le bulletin numéro 36 de l'Agence régionale d'hospitalisation, cet hôpital couple-enfant s'inscrit dans le projet d'établissement du CHU de Grenoble, qui est, en reprenant les propos de Jean Cartex, qui est le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. Donc ce projet, ce serait de moderniser l'offre de soins et de développer l'enseignement, la recherche dans la pédiatrie et la périnatalité. Et tous les communiqués qu'on peut lire insistent sur l'importance de cet hôpital dans l'aménagement du sillon alpin. Et Michel Destot nous annonce un véritable pôle de référence.
Finalement, à travers tous ces projets, il faut comprendre que l'objectif, il est de regrouper les personnels et les équipements médicaux, les plus coûteux, sur un même site. Donc ça va impliquer une fermeture des maternités de proximité. Et il faut préciser également que le nombre de lits va être plus élevé qu'actuellement, donc la capacité d'accueil sera plus grande, pour un même nombre de personnels. Il faudra donc compter sur la polyvalence de ce personnel.
Et donc, qu'allons-nous trouver dans cette première tranche de l'établissement livré fin mars 2008 ? On nous parle de périnatalité partout et rarement de femmes, même jamais. Et donc, dans le Dauphiné libéré, voilà ce qu'on peut trouver comme service proposé par cet hôpital. Donc, une maternité de niveau 3, un service de gynécologie obstétrique, un service de néonatologie et de réanimation et un centre de diagnostic prénatal. Mais comme on ne comprenait pas bien qu'est-ce que ça signifiait réellement, on allait glaner un peu plus d'informations. Et derrière service de gynécologie obstétrique, en fait, il y aura un service de gynécologie générale où les femmes viendront pour des consultations, des hospitalisations ou des chirurgies pour traiter des cancers, par exemple des fibromes ou d'autres pathologies. Il y aura également un centre d'IVG, c'est d'interruption volontaire de grossesse, de contraception, un centre de dépistage des infections sexuelles transmissibles. Et bien sûr, une maternité de niveau 3 qui permet donc d'accueillir des femmes qui sont en risque d'accoucher de façon prématurée ou qui ont des pathologies nécessitant un suivi rapproché à l'hôpital.
Tu veux dire que dans l'hôpital couple-enfant, par exemple, si j'ai un cancer du col de l'utérus, ou si, par exemple, je me rends compte que je suis stérile, je vais aller faire des interventions chirurgicales dans l'hôpital couple-enfant.
Oui, c'est exactement ça. En fait, on voit que tous les actes que tu viens de dire, mais bien d'autres, ont finalement rien à voir avec la maternité, enfin, beaucoup. Et pourtant, ils apparaissent jamais dans les communiqués de presse. Alors que on parle de justement de juste périnatalité. Donc il faut maintenant, vous savez que pour aller faire un IVG, il faudra aller à l'hôpital couple enfant, bien que on ne vous l'ait jamais dit.
D'accord. En fait, du coup, ça veut dire que en gros, dans la communication, dans la pub qui est faite autour de cet hôpital, tout ce qui est IVG et maladies typiquement féminines, par exemple, je sais pas, un problème aux ovaires, un kyste aux ovaires, et ben, ça n'apparaît pas. C'est-à-dire qu'en gros, la seule chose qui est valorisée, c'est la maternité et toutes les opérations liées à la maternité.
Voilà, tout le reste, c'est sous le terme fourre-tout de gynéco-obstétrique.
D'accord.
Dans les cités, les bidonvilles, le pape bénit la pauvreté. Ça passe le temps, ça tient tranquille, ceux qui n'ont plus rien à becter. Et puis le très Saint-Père a dit, faut faire des gosses, même ses repos. Ils iront vite au paradis, de toute façon ici, il n'y a pas de boulot. Oh dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux, s'il te plaît fais-moi rêver un peu. Partout on crève, mais c'est une chance, et puis faut bien se faire une raison. Au moins ça limite les naissances, sans cette damnée contraception. Bien sûr les viols font une moyenne, faut se résigner, surtout rien dire. Que naissent les gosses de la haine, pourvu qu'ils soient faits sans plaisir. Oh dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis ce serait peut-être mieux, s'il te plaît fais-moi rêver un peu. On parle de vice et de péché, et on excise des gamines, pourvu qu'il y ait frigidité.
On peut pas dire que ce soit un crime. Faut pas croire que ce soit de l'esclavage, puisqu'elles ont le droit de prier Dieu dans les liens sacrés du mariage. Si ça fait mal, qu'elles ferment les yeux. Dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Faire des mômes, c'est pas un loisir. Faut que les mères pondent sans conviction. Mais si elles peuvent pas les nourrir, c'est plus prévu par la religion. De toute façon, elles n'ont qu'à se laisser faire et se soumettre au testament. Se montrer dignes de leurs ovaires et se laisser engrosser sagement. Or, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Ceux qui ont de la moralité montent des gangs, des commandos, pour faire naître ceux qu'ils vont taxer. Plus tard d'être des enfants de salauds, les bien-pensants, les bonnes chrétiennes vont s'occuper de ces petites garces. Le temps qu'éclosent leurs mauvaises graines, qu'on oublie après à la DAS. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Ils se protègent sous leur tonsure et revendiquent leur petite calotte. Sans doute pour eux que c'est plus sûr que de nous laisser mettre des capotes. Pas la peine d'avoir son certif pour nous faire docilement gober. Satan et ses repositifs, comme tous ceux qui l'ont bien cherché. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Le seul virus qui soit bien vu, c'est l'Église, c'est la religion. Fais gaffe à toi si tu l'as plus. On te pardonne mal ta guérison. Ces malades-là sont sanctifiés. Au ciel, y a plus de phase terminale. Et martyr, c'est bien mieux payé que de travailler seul à l'hôpital. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Hey. Dis monsieur, je te crois pas. T'oublies qu'aujourd'hui c'est dimanche. Jamais la Vierge n'avortera. On la fête sainte, pas faiseuse d'ange.
En 1982, les centres autonomes d'IVG sont créés. Le CMSF, qui a existé jusqu'en 2002 à Grenoble, voit le jour en 1982 et est installé au rez-de-chaussée de l'hôpital de Michalon à La Tronche, donc au CHU de Grenoble. On va vous parler de ce CMSF qui va être dissous dans, dans l'hôpital couple-enfant, parce que ce CMSF, c'est pas... un centre ou un département hospitalier comme un autre, c'est un centre qui est le fruit d'une lutte. C'est-à-dire que en 1982, au moment où il est créé, ça fait déjà 25 ans que des luttes autour de la demande d'accès gratuit et libre à la contraception et à l'avortement, que ces luttes ont commencé en fait. Ça fait déjà 25 ans, en 1956, c'est vraiment les premiers mouvements de lutte pour l'avortement qui aboutissent à ce centre en 82.
Le CMSF, donc le Centre Médico-Social de la Femme, comme tu viens de le dire, donc, est né de mouvements de lutte de plus de 25 ans, de lutte des femmes, de groupements féministes qui ont atteint leur apogée dans les mouvements de l'après 68, hein, toutes ces années 70, de grands mouvements qui militaient pour un avortement, pour l'avortement, l'accès à l'avortement et à la contraception de manière libre et gratuite pour toutes les femmes, sans aucune discrimination. Ces mouvements étaient portés très fortement par le MLF, le mouvement de libération des femmes, le MLAC, le mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, également la revue Choisir et aussi le planning familial. Ces mouvements étaient s'organisaient de deux manières. D'une part, des luttes théoriques à partir de ce grand slogan qui était « Notre corps nous appartient, notre corps nous-mêmes », qui pose sa lutte et son fondement théorique sur le droit fondamental face à la question du choix lié à nos corps, nos sexualités, nos maternités. Voilà. Le deuxième pan était sur la lutte pratique et au sujet de l'avortement avec l'introduction de la méthode Karman. Donc la méthode Karman, c'est la méthode d'aspiration qui est utilisée aujourd'hui dans les hôpitaux. La méthode Karman est arrivée donc en 72 et depuis 72, avant la légalisation de l'avortement en 75, les avortements étaient pratiqués par ces groupements de femmes, ces mouvements féministes, pour allier donc la théorie à la pratique. Donc c'était tout un mouvement politique autant que subversif. Et à partir de 72 et avec cette méthode, il n'y avait plus de danger comme toutes ces choses dont on a entendu parler et qui ont fait tant de mortes, comme les aiguilles à tricoter, le persil, la javel et toutes ces horreurs. Voilà, ça pour cette part-là qui a amené la création, donc de, après le passage de la loi Veil, la création en 82 des centres autonomes d'IVG.
Ouais, et à Grenoble, nous avons rencontré des gens qui ont milité au MLAC, au mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, et donc qui faisaient des avortements de façon illégale, et qui étaient donc dans des appartements, etc., mais qui revendiquaient publiquement qu'ils le faisaient. Et ce que nous découvrons aussi quand on discute avec donc ces militantes et ces militants, et aussi quand on fait le travail d'archives, c'est qu'en fait, en 70, ils luttaient contre le gouvernement qui était contre le droit des femmes de disposer librement de leur corps, mais aussi contre le pouvoir médical et le pouvoir religieux, avec les PMI, les protections maternelles infantiles, avec les bonnes sœurs qui insistaient sur la maternité, et le pouvoir médical qui s'opposait fortement à justement la liberté d'avortement. Quand les 343 salopes ont publié leur manifeste en disant « Oui, nous sommes des salopes qui avons avorté », il y a eu 10 000 médecins qui ont signé une pétition pour le respect de la vie. Et le mouvement Laissez-les vivre était très supporté par le Conseil de l'Ordre, qui a été une institution créée sous Vichy, entre autres pour réprimer les gens qui pratiquaient l'avortement.
On retrouve une des réclamations fortes qui était portée par le mouvement du planning familial, mais qu'on retrouve dans d'autres mouvements, était le droit de chaque femme à disposer de son corps, à n'avoir de maternité et de rapport sexuel que désiré. Elle refuse l'idée admise que le corps des femmes est un ventre pour l'État, l'Église, un corps à contrôler par la médecine ou un corps mis à disposition d'un mari. Elle revendique disposer librement de leur corps comme tout individu qui ne vit pas en esclavage. Il faut savoir qu'à Grenoble, ça a été une ville forte justement dans toutes ces années 70. Ça a été Grenoble le premier lieu d'ouverture du planning familial en France. Le mouvement du MLAC a été également très fort. Des maisons de femmes s'ouvraient dans ces années-là.
Deux maisons
de femmes, c'est énorme. Avec des maisons de femmes qui accompagnaient les femmes en grande précarité, qui accompagnaient l'information à la contraception, à la sexualité, mais aussi autour des violences conjugales, qui créaient des groupes de parole, des maisons vraiment avec une importance assez fondamentale pour la conscientisation collective de ce que chacune subissait. C'est à Grenoble aussi qu'il y a eu des procès assez importants par rapport à des médecins qui, malgré leur subordination répressive, exerçaient quand même des avortements clandestins, et des procès qui ont réussi, qui sont sortis de l'ombre, quoi. Voilà. Donc Grenoble est quand même une ville importante.
Oui, et il y avait toute une pratique de l'illégalité qui était forte. Par exemple, on a des récits de groupes de femmes qui allaient en Suisse chercher justement des ustensiles pour soit de la contraception, soit pour les ustensiles pour appliquer la méthode Karman, et qui les cachaient dans les pneus de voiture pour passer les douanes. Enfin, il y avait des choses comme ça, des cars organisés aussi de femmes pour aller avorter à l'étranger, enfin, toutes ces choses-là, quoi. Et en 1975, la décevante loi Veil arrive. Je dis décevante parce que pour tous les militants et les militantes pour l'avortement de l'époque, ça a été une loi décevante parce que c'est une loi de compromis et d'encadrement médical de l'avortement. Donc cette loi, elle est confirmée en 1979 par Pelletier. Elle tolère l'IVG, mais elle la laisse dans le pénal, ce qui était... quelque chose qui était revendiqué par les militantes, c'était justement que cette loi ne soit plus pénalisée, l'avortement ne soit plus pénalisé. Et elle prévoit surtout un réel parcours de la combattante pour dissuader les femmes d'avorter.
On va écouter un morceau de musique du quartet buccal. On va faire une petite pause musicale. Donc c'est une chanson du quartet buccal, ça marche pas ?
Navigue entre générations. Dès demain, Marie l'offrira à sa fille qui pour de bon devient femme puisqu'elle a des seins. Ses règles de suave sensation. Un coussin rouge brodé à pois, d'où il vient ça, on ne sait pas. On se transmet de mère en fille, il faut dire que dans la famille, les femmes c'est pas de la gnognosse, des demi-sèvres, des chochottes. On se transmet de mère en fille, il faut dire que dans la famille, les femmes c'est pas de la gnognosse, des demi-sèvres, des chochottes. Marie avait reçu de sa mère ce petit coussin rouge et soyeux. Maintenant ma fille t'es l'héritière, prends-en soin, il est précieux. Abandonne-lui ton doux derrière dès qu'un homme brutal ou mielleux cherche à remplacer ton père, se prend pour ton maître ou ton dieu. Je me suis battue une vie entière contre le sexisme en première ligne. Souvent on m'a traité de sorcière, de mal baisé, de mec, de queen. Mais souviens-toi de mes Pauline qui s'envoyait en l'air avec des Jules aux gens James Dean, chantant pas question que je m'enterre avec un vieux qui dégouline. Un coussin rouge brodé à pois, sans style usé, tout rafla-fla. On le reçoit quand on est libide, et là toute la famille jubile. Faut dire que de temps en temps, frangine, les femmes se battent la gélatine. On le reçoit quand on est libide, et là toute la famille jubile. Il faut dire que les frangines, c'est pas de la gélatine. Rappelle-toi de Tata Simone, qui écrivait des vers scandaleux. C'est gosillant comme une lionne, militant et crachant le feu. C'était pour que toi, ma mignonne, tu puisses être et vivre ce que tu veux. En la voyant raccommoder ce vieux coussin comme une bonbonne, alors qu'il y a manif au lycée. Faudrait que tu te bouges, moi je bouillonne. Égalité c'est pas gagné, et ça me débecte qu'on se questionne encore à propos de parité. Un coussin rouge brodé à pois qui a vécu de
vous écoute.
Marie le lègue à sa gamine, c'est mieux que des recettes de cuisine. Va falloir reprendre le flambeau, il y a encore du Marie de lègue à sa gamine, c'est mieux que tes recettes de cuisine. Faut reprendre le flambeau, soit tu y a du boulot.
Vous écoutez toujours Dégenré, l'émission féministe pour déranger sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Alors, ce qu'on vient d'écouter, c'est le quartet buccal. Ça s'appelait Le Coussin Rouge, donc une chanson sur la transmission entre les générations de femmes, donc qui va bien avec notre émission de ce soir. Et avant, on avait entendu une chanson d'Agnès Bille, Ah, si la Sainte Vierge, elle avortait. Voilà.
Là, on va repartir sur une partie autour du Centre médico-social de la femme, donc de 1982 à nos jours, et également le devenir donc de ce centre au sein de l'hôpital Couple-Enfant. Donc ça fera deux formes, deux parties, donc une sur le MSF de 82 à aujourd'hui, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital Couple-Enfant ?
Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que pour que ces centres justement autonomes d'IVG soient créés dans les hôpitaux, ça a été aussi des luttes locales. Alors, par exemple, à Grenoble, il a fallu qu'il y ait une pression militante pour créer le CMSF, parce que le chef de service de gynéco-obstétrique était le vice-président de Laissez-les-Vivre. C'est pas le seul, et c'est encore plus ou moins le cas aujourd'hui. Donc, il y a... C'est-à-dire que, par exemple, dans les commandos anti-avortement qu'on a vus en 90, il y a des chefs de service de gynéco-obstétrique.
Tu peux préciser Laissez-les-Vivre, ce que c'est ?
Ouais, Laissez-les-Vivre, c'est les anti-IVG, les pro-vie, donc, qui sont fondés en 1970 par Monsieur Lejeune, qui sont des gens qui militent contre l'avortement aujourd'hui encore.
Ce sont des cathos intégristes, hein, ce sont des mouvements religieux très forts.
Oui, qui sont non seulement contre l'avortement, mais aussi contre les contraceptions. et contre la sexualité hors mariage.
Et on peut peut-être préciser aussi qu'ils représentent un lobby politique très important, en fait. Que ce soit aux États-Unis ou même en France, ils ont des appuis politiques.
Il y en a au gouvernement actuellement, hein, dans le cabinet de Christine Boutin, donc ministre du logement, de la ville, de je sais pas quoi.
Secrétaire d'État, je crois.
Ouais, ok, peu importe. Enfin, Christine Boutin, au gouvernement, en tout cas, dans son bureau, enfin, dans les gens qui travaillent pour elle, il y a notamment une nana qui a été condamnée il y a une dizaine, une quinzaine d'années pour des actions anti-avortement à l'époque où les provis s'enchaînaient au lit d'hôpitaux, aux nanas qui allaient avorter. Et... Par exemple, voilà. C'est-à-dire que dans les gens, au gouvernement, il y a des personnes qui travaillent qui sont des provis.
Donc en 1982, quand le CMSF est créé, il a fallu lutter contre ces gens-là, bien sûr. Et donc le CMSF a été installé au rez-de-chaussée de l'hôpital de Michalon, parce qu'il y avait une forte mobilisation. Et cette structure, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle a été montée et tenue par du personnel qui est issu de ce mouvement politique, et donc qui ont été formés par une expérience militante. C'est très important parce que, par exemple, la loi Veil est particulièrement restrictive du point de vue de l'avortement. Mais comme ces centres autonomes étaient tenus par du personnel militant, il y avait des largesses par rapport à la loi qui était faite. Par exemple, Misette nous racontait qu'au CMSF, quand il y a travaillé, par exemple, en fait, dans la loi Veil, on doit voir un docteur d'abord, ensuite faire un entretien psychosocial, puis revoir le docteur une semaine après, et à ce moment-là, il signe l'autorisation d'avortement. Donc il y a eu toutes sortes de pressions pour faire en sorte soit de garder l'enfant et de le faire adopter, soit de le garder et de demander des aides sociales, etc. Enfin bon. Donc c'est toutes des mesures pour éviter que les femmes avortent, ou pour culpabiliser les femmes qui avortent. Et Misette, par exemple, disait que, par exemple, elle au premier entretien, elle donnait l'autorisation d'avorter et ensuite la femme pouvait parler. C'est-à-dire que quand on fait l'entretien et qu'ensuite on donne l'autorisation, bah, il faut trouver plein d'excuses en fait pour que le docteur vous donne l'autorisation, et puis le docteur a toute l'attitude de vous culpabiliser, de vous mettre la pression, alors que par exemple elle pouvait donner l'autorisation et ensuite les femmes avaient la liberté de parler de ce qui leur arrivait, quoi.
Il y avait aussi la pression médicale, hein, c'est-à-dire une information des risques par rapport à l'IVG. C'est une notion pas du tout scientifique qui continue à circuler aujourd'hui, hein, c'est-à-dire les risques de fertilité, les risques, enfin voilà, tous les risques liés à mais le choix que vous faites, ce sera peut-être jamais, vous ne pourrez plus jamais avoir d'enfant de votre vie. Enfin voilà, aussi tout ce truc alarmiste.
Qui est désormais une légende urbaine.
Tout à fait. Et alors, ce CMSF a fonctionné pendant 25 ans de façon complètement, enfin de façon autonome, et il n'y a pas eu de morte. Hein, il faut en 25 ans, il faut le dire. Et le fait que ça soit autonome, ça a aussi permis des expériences intéressantes. Par exemple, au CMSF, dans les années 90, il y avait une kiné qui officiait là-bas. Ça se dit officier.
Qui travaillait
là-bas. Et qui faisait des avortements, qui apprenait les femmes à se détendre, à se décontracter, et qui faisait des avortements sans
anesthésie.
Ouais, sans anesthésie.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous mourons d'anesthésie générale. Hein, c'est le risque de mort lors des IVG. Hein. C'est l'anesthésie générale. C'est l'unique...
Ouais. Et ce qui montre bien que c'est une opération bénigne, parce que sous décontraction, enfin, je veux dire sous sophrologie, on peut avorter sans que ça soit très douloureux, quoi. Donc elle a témoigné un petit peu.
Alors je vais lire quelques passages de son texte. Le premier contact avec les femmes dure environ une demi-heure. À mon avis, cet instant est très important pour les femmes. Souvent, une émotion se dit à ce moment, sous forme de pleurs, ou bien elles reprennent leur histoire. Manque de communication avec leur partenaire, douleur ou difficulté à faire ce choix d'interrompre la grossesse, non disponible à accueillir une grossesse maintenant. C'est aussi pendant ce temps que j'insiste sur le fait qu'elles ont fait un choix, qu'elles ont décidé
et qu'appuyer sur la culpabilité ne sert à rien. Souvent, elles repartent apaisées. Ensuite, je les suis pendant tout le temps de l'intervention, restant assise à côté d'elles, et tout en leur demandant de bien poser le bassin et le thorax contre le support de la table, de ressentir le mouvement du souffle jusqu'au ventre, du bassin jusqu'à sa base, au périnée, je fais un massage du périoste sur tout le sternum de bas en haut. Ces légères stimulations de l'os ont pour effet de détendre en profondeur le thorax et le diaphragme, donc d'aider le mouvement du souffle à redescendre dans le bassin. Très souvent, les femmes expriment spontanément que la relaxation et ma présence constante à leur côté pendant l'IVG les ont beaucoup aidées au moment de l'intervention, avec moins d'appréhension du geste, un soutien face à leur émotion et la possibilité de parole, d'exprimer, de dire, accueillir leurs paroles. Car au niveau de cette structure dite légère, ce sont toujours les mêmes médecins et la même psychologue qui interviennent. Elles ont choisi et préfèrent aussi ce mode d'intervention, cette structure dans laquelle on ne fait pas l'impasse au moment de l'acte des émotions ressenties.
Alors on voit que dans ces centres autonomes, il y avait un suivi à la fois de santé, mais aussi un suivi humain, quoi, qui permet aux femmes d'être prises en compte dans leur globalité.
Et là, eh bien, nous arrivons en 2001. Et il faut savoir qu'en janvier 2001 a été mis en place une nouvelle loi. En règle générale, une réorientation globale sur les questions de santé. Et donc les conséquences sur l'IVG, la pratique d'IVG, c'est que, entre autres, les centres autonomes d'IVG ne sont plus autorisés. Et pour cela, un autre passage de lecture, donc de Lola Devolder, qui participe au mouvement pro-choix à Toulouse, donc qui est un mouvement féministe de revendication au libre choix. Beaucoup d'autres choses aussi, mais entre autres très fondées sur la question de l'avortement. Donc une citation, enfin un passage de Devolder.
Les structures de type autonome, c'est-à-dire les centres autonomes d'IVG, c'est-à-dire les unités placées sous la surveillance directe du directeur de l'établissement, ne sont plus autorisées depuis la loi du 4 juillet 2001. La loi préconise que les structures d'IVG soient progressivement rattachées au service des établissements de santé. Les IVG doivent donc désormais être prises en charge au sein même du service de gynéco-obstétrique par une unité fonctionnelle du service. Cette transformation des centres autonomes en unités fonctionnelles est censée permettre d'intégrer le plus largement l'activité d'orthogénie à celle du service de gynéco. Nous émettons un doute certain quant à la pertinence de cette mesure qui semble n'être qu'un recul en arrière. Les centres autonomes d'IVG sont les structures qui accueillent le plus de femmes en demande d'IVG. Or, ce sont elles que l'on supprime aujourd'hui. De plus, les budgets hospitaliers sont attribués à chacun des services sans distinction d'activité. Il faudra donc compter sur la bonne foi des gestionnaires du service de gynéco pour qu'ils réservent une partie de son enveloppe budgétaire au bon fonctionnement de l'IVG. Et sans surprise, nous nous permettons d'en douter. Par ailleurs, cette mesure va à l'encontre des nombreux témoignages de femmes qui expliquent leur désarroi de se retrouver pour avorter entourées de femmes qui accouchent. Les locaux dans lesquels les IVG sont pris en charge doivent être dédiés à cette activité afin de garantir aux femmes un environnement adapté.
Voilà, donc pour préciser, les centres d'orthogénie sont donc ce qu'on appelle ces centres autonomes hein, d'accueil à l'avortement, à l'information. Cette année-là, 2001, donc, et beaucoup de structures comme l'ANSIC, l'Association nationale des centres d'IVG et de contraception, positionnent des choses très fortes en disant que, en effet, les années qui viennent vont être très marquées par de fortes restructurations hospitalières et qui vont voir s'opposer ces deux conceptions, donc l'autonomie, issue des luttes des femmes des mouvements des années 70 face à l'intégration complète de ces centres au sein de la maternité. Voilà, il y a aussi Grenoble a été un lieu d'affrontement important et qui était l'issue d'une voilà, qui permettait que cette bataille ou pas serait l'issue d'une orientation décisive pour l'avenir. Or, Grenoble, comme toute nous n'avons pas réussi à maintenir ces centres autonomes.
En effet, depuis 2000, le CMSF de Grenoble a été mis sous pression. Et Donc en 2002, le CMSF fait la grève. On va vous lire un extrait de leur communiqué lors de la grève.
Alors, par rapport à cette grève, depuis le vendredi 22 mars, les médecins et le personnel du CMSF, du CHU de Grenoble, sont en grève illimitée et n'assurent donc plus les 35 à 40 interruptions volontaires de grossesse qu'ils pratiquent habituellement en moyenne par semaine. La décision de se mettre en grève n'a pas été prise à la légère. Elle constitue une étape dans une lutte engagée depuis plus de 2 ans contre une décision de la direction de délocaliser le CMSF et le disperser en 3 sites différents dans l'hôpital. Les membres du CMSF pensent qu'avec ce projet, la spécificité de leur activité est menacée. En effet, tous volontaires, ils ont à cœur d'assurer la meilleure prise en charge médicale, humaine, psychologique de la femme qui désire interrompre une grossesse. Et cela commence dès la prise de contact et va bien au-delà de l'IVG. S'ils sont intégrés au service gynécologique obstétrique, comme c'est prévu, ils craignent que les IVG ne soient pas considérés comme prioritaires et passent après le reste si on a le temps, si on a le personnel disponible. Ils refusent cette délocalisation qui signifie la dissolution du centre et afin de garantir les meilleures conditions aux femmes qui ont recours à l'IVG, ils exigent. Alors, 4 revendications, un seul responsable médical pour l'unité, deuxièmement, un cadre unique responsable pour gérer le fonctionnement d'équipe, troisièmement, un personnel affecté uniquement à l'unité, et quatrièmement, une autonomie de gestion. Et alors la situation c'est que l'hôpital de Bourgoin en Isère donc vient de fermer son centre d'IVG car les médecins, en conflit avec la direction, viennent tous de démissionner. À la clinique mutualiste de Grenoble, les médecins IVG viennent d'être remplacés par des médecins qui ne pratiquent pas d'IVG. Bien qu'en grève totale, le personnel du CMSF ne laisse pas tomber les femmes qui s'adressent à lui et s'arrange pour qu'elles soient prises en charge par d'autres centres. Mais il proteste et a déposé un référé devant le tribunal administratif car, depuis le 25 mars, la direction a assigné un médecin pour assurer un service minimum quotidien et, à partir du 2 avril, elle en assigne 2. Autrement dit, la totalité des médecins du CMSF est empêchée de faire grève.
Donc de 2002 à 2007, le CMSF est déménagé. Il est mis dans des locaux préfabriqués. Il change de nom aussi et il est intégré au centre de gynéco-obstétrique. Donc sur le site, ça donne...
Voilà, donc pour préciser, ça donne... Dans le préfabriqué ont lieu les consultations pré-IVG et aussi de planning familial. Et est intégré au site de gynéco-obstétrique la pratique, le bloc opératoire des IVG et la salle de réveil. Donc voilà, c'est déjà démantelé, quoi.
Ouais, et ce qu'on m'a dit, c'est que l'argument, c'était que dans le rez-de-chaussée, donc l'ancien CMSF, les conditions de sécurité n'étaient pas assez bonnes parce que la salle de réveil n'était pas assez performante. Donc, en gros, on les a virés du rez-de-chaussée de Michalon, où d'ailleurs maintenant ils font des recherches, qui sont quand même des activités un peu plus valorisées que les IVG. Vous savez, à Grenoble, le CHU, c'est quand même un gros centre de recherche. Et aussi, le passage au préfabriqué, ça a été aussi l'occasion de faire des coupes franches dans le budget du CMSF et qu'il y ait du licenciement de personnel, donc licenciement par exemple de la kiné.
Ça veut dire donc que tout ce que le CMSF demandait, ils ne l'ont pas eu et en plus leur état s'est empiré, c'est ça ?
Alors justement, on a relevé quelques points positifs et quelques points négatifs avant une petite pause musicale. Donc les points positifs par rapport à les points positifs de ce qu'ils ont réussi à maintenir malgré cet éclatement, c'est quand même une autonomie de gestion. Donc ça reste des responsables du service. Il y a également, on garde une spécificité de la pratique. C'est une même équipe qui s'occupe et qui réfléchit autour de la pratique de l'IVG. Et nous gardons aussi un bloc spécial pour l'IVG. Donc ça, ce sont les points qui réussissent encore à rester jusqu'en 2007.
Et ensuite, il y a quand même beaucoup de points négatifs. Bon, le premier, c'est l'éclatement géographique. Ils ont des conditions d'exercice beaucoup moins favorables que quand ils étaient au rez-de-chaussée. Et puis aussi, la grosse perte donc, après 2002, c'est qu'ils ne peuvent plus faire une même équipe ne peut plus faire le suivi d'une femme. C'est-à-dire qu'une femme, dans son parcours d'IVG, dans tous les rendez-vous, elle va passer d'une personne à l'autre sans jamais voir les mêmes personnes. Et par exemple, avant, c'était le docteur qu'elle voyait ou le chirurgien qu'elle voyait qui pratiquait l'acte d'IVG. Maintenant, elle se retrouve à être avortée par quelqu'un qu'elle n'a pas vu auparavant. Et donc, ça donne des récits de copines qui ont avorté, donc, par exemple, au CMSF entre 2002 et 2007, avec des récits où, quand elles le posent des questions à l'accueil, on ne leur répond pas, on leur dit « mais vous arrêtez de nous faire chier, en gros, vous êtes bien contentes de pouvoir avorter, parce qu'elles n'ont plus de temps ». Ça donne « j'aimerais bien voir la chirurgienne, ah ben non, c'est pas possible, mais pourquoi vous voulez la voir ?» Alors qu'avant un acte chirurgical, on a le droit de demander de regarder qui va nous charcuter, enfin, je sais pas, ça me paraît logique, avec des fausses informations données par un médecin qu'on revoit plus jamais, par exemple comme le fait de pouvoir, enfin de prendre la pilule après l'IVG pour cicatriser, et qu'après quand on discute avec un infirmier, il vous dit mais non, mais ça n'a rien à voir, enfin que des choses comme ça qui font que les IVG en fait se passent mal en fait.
Pour la pause musicale, on vous propose d'écouter une chanson qu'on a été repêchée dans les années 70, puisqu'on parle de toutes ces luttes. Et on parlait tout à l'heure, vous parliez du mouvement anti-avortement qui s'appelait « Laissez-les vivre ». Je pense que la chanson qu'on va écouter est une réponse directe à l'époque à ces groupes-là. Ça s'appelle « Laissez-nous vivre ».
Ne nous donne pas les moyens de n'avoir que les enfants que nous voulons. C'est qui savait que ce serait catastrophique pour leur prévision démographique, surtout pas trop d'informations sur la contraception. Il vaut mieux culpabiliser celles qui se font avorter. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas piéger. S'ils ne nous donnent pas les moyens de n'avoir que les enfants que nous voulons, ils veulent contrôler leur production. Pour le contrôle de la production, combien d'enfants sont vraiment désirés? Et combien sont-ils ceux qu'on a fini par accepter? Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas piéger. Ils savent que s'ils nous donnaient les moyens de n'avoir que les enfants que nous voulons, il n'y aurait plus assez de chômage pour leur permettre de nous exploiter. Que l'homme ne soit pas concerné par la maternité, il vaut mieux qu'il reste à l'écart de ces charmants moutards. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas piéger. Si nous donnions les moyens de n'avoir que les enfants que nous voulons, nous serions bien plus redoutables face à ces gros bonnets respectables. Surtout sachant nous battre dans le quotidien, il n'y a pas de moment privilégié pour savoir lutter. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas piéger. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas piéger.
Dégenrer l'émission pour déranger, nous retrouvons l'hôpital Couple Enfant. Donc là, nous sommes en 2007, après vous avoir fait un peu l'état des lieux des années précédentes et des luttes féministes. Donc l'hôpital Couple Enfant, qu'est-ce qui aujourd'hui nous semble être positif? Qu'est-ce qui est négatif par rapport à cette structure et aux conditions d'avortement? Et nous aborderons aussi un peu quelques critiques apportées par d'autres témoignages. Et avant, une autre pause musicale.
Alors, il y a quelques petits points positifs, mais pas beaucoup. Alors, ce que dit le CMSF, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y aura des créneaux de consultation pré-IVG l'après-midi, alors qu'avant, il n'y en avait que le matin. Alors, ce qu'ils ont gagné aussi dans le transfert à l'hôpital couple enfant, c'est que ça va être balisé. C'est-à-dire que quand on va rentrer, ça va être, on va voir où c'est. Il y aura des petites flèches, parce que dans des hôpitaux, il n'y en a pas.
Et pour permettre une visibilité qui permet la confidentialité aussi de « je vais avorter, je n'ai pas besoin de passer par l'accueil pour dire pourquoi je viens à l'hôpital ».
Il y aura aussi un jour de formation pour l'accueil. Alors on peut se demander si c'est suffisant, mais bon. Et un jour de formation pour les IDE, c'est-à-dire le personnel, une partie du personnel médical, à se confronter à des femmes qui vont avorter. Et c'est tout, comme
et
point positif.
Les points négatifs, nous aurons une surface des locaux beaucoup moins importante et également un manque au niveau des aménagements, par exemple pas de fenêtres ou des choses comme ça. Le circuit pour l'avortement est également modifié, c'est-à-dire qu'avant les rendez-vous étaient centralisés en une demi-matinée, donc une femme qui venait pour avorter venait pour la matinée dans ses rendez-vous pré-IVG. Et là, c'est sur rendez-vous. Donc, il faudra venir peut-être un mardi matin, puis un jeudi après-midi. Et puis, c'est encore flou. C'est des suppositions, c'est des questionnements. Il y aura également le questionnement aussi de la polyvalence des interventions. C'est-à-dire que tout médecin, toute infirmière, tout anesthésiste interviendra sur toute opération en même temps, dans la même matinée ou la même journée. Nous ne savons pas encore très bien, mais en tout cas, ça pose aussi cette question de la disponibilité, de l'accueil. Est-ce que chaque personne sera vraiment bien formée et informée de l'acte qu'elle pratique et que ce n'est pas pareil en fonction des actes et de la réalité sociale ? La salle de réveil aussi, a priori, sera une salle de réveil commune pour les anesthésies générales. Donc, ils pourront mêler des personnes qui ont une césarienne, de personnes qui ont avorté. Et pourquoi pas dans l'absolu ? En attendant, il y a quand même une culpabilité qui continue à régner et du coup, des femmes qui peuvent se retrouver en difficulté. Ce problème aussi, c'est-à-dire qu'il y aura le même nombre de lits. Mais toujours moins de personnel dans la globalité, voilà.
Je dirais pas moins de personnel, mais toujours autant avec plus de lits.
Ouais, là c'est ça.
A priori, par rapport au personnel qui est actuellement au CMSF, il va y avoir des réductions. C'est ça, c'est pas dans l'hôpital globalement, mais le personnel du CMSF est réduit grandement depuis 2002. Alors ouais, les questions qu'on peut se poser donc par rapport à ce transfert, c'est bon, on voit que globalement depuis le CMSF au rez-de-chaussée jusqu'à l'hôpital couple enfant, le centre d'IVG perd petit à petit des moyens, du personnel, de la qualité, des compétences, enfin c'est assez triste. Donc on peut se demander quelle autonomie de gestion le centre d'IVG et de planification aura au sein de l'hôpital couple enfant. Est-ce qu'il y aura un bloc spécial IVG ou alors est-ce que les IVG vont se faire au milieu du reste ? Et est-ce qu'on fera aussi la queue avec les femmes enceintes pour aller voir l'anesthésiste si on vient faire un IVG ?
Il y avait aussi peut-être quelques critiques apportées par un autre témoignage de Robert que tu avais rencontré aussi.
Ouais, il dit la principale perte, c'est qu'il n'y a plus du tout de suivi de la patiente. C'est-à-dire qu'elle est complètement livrée à elle-même dans des mains de médecins, d'infirmiers, d'anesthésistes qu'elle ne connaît pas du tout. Et vu le bas prix de l'IVG, le fait qu'il n'y ait pas de formation, ou très très peu de formation médicale à ça, que le personnel militant qui avait été formé part à la retraite, qui a été formé dans les années 70, et la mauvaise presse de l'IVG... On peut vraiment avoir peur que dans l'hôpital couple enfant, ça soit la cinquième roue du carrosse, en fait, de cet hôpital.
Voilà, donc ça, c'est un peu pour les problématiques, je dirais, très concrètes que ça va poser pour les femmes. J'ai l'impression que ça, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel, en fait, de se dire dans quelles conditions vont pouvoir avorter les femmes. Mais j'ai l'impression que politiquement, ça signifie aussi beaucoup de choses derrière. Et c'est là-dessus aussi qu'on a envie de se battre, de dire mais c'est quoi cette. Politiquement, là, c'est quoi ces régressions par rapport aux conditions des femmes et aux manières de les considérer. Du coup, on voulait peut-être commencer par reprendre déjà l'appellation de l'hôpital couple-enfant. Et du coup, sur cette appellation, déjà, elle est bien justifiée en fait par donc un professeur qui s'appelle le professeur Chirossel, qui travaille dans l'hôpital. Et voilà, et qui est très content en fait de cette appellation qu'ils ont trouvée. Donc on peut le citer.
Le couple, c'est pour l'hôpital l'équilibre familial. C'est aussi dans le couple que se vit la maladie de l'enfant. Et c'est encore dans le couple qui en est terrassé. Le couple encore pour trouver et partager dans cet hôpital ces moments de bonheur inoubliables autour de la naissance.
Ça fait envie, hein.
Bravo.
Le bonheur inoubliable. Moi, vraiment, je trouve que c'était super intéressant d'écouter toute l'histoire qui permet d'avoir les clés pour comprendre pourquoi nous, là, vraiment, on parle de dégradation des droits par rapport à l'avortement. Et c'est vrai que bon, c'est aussi important d'avoir des vraies analyses et critiques féministes, surtout quand on entend ce qu'on vient d'entendre. Ce nom, hôpital couple-enfant, a des résonances terrifiantes. Je trouve vraiment, moi, ça...
Alors, péténiste, hein, si on resitue dans l'histoire.
Ah oui, moi, ça m'est venu direct. On m'a dit couple-enfant, j'ai fait « Ah, travail, famille, patrie !» Les femmes sont des ventres reproducteurs pour faire des enfants pour la France.
Et les militantes des années 70 qu'on a pu recroiser là dernièrement, elles nous disaient pareil. Hein, pour elles, c'était une résurgence de tout ça, quoi. Notamment, par exemple, sous Vichy, il y avait ce qui s'appelait les PMI. Donc, c'était des centres en fait de protection maternelle et infantile. Et voilà, donc il y avait cette idée déjà de protéger en fait les femmes, parce qu'effectivement elles n'étaient pas très capables de s'occuper d'elles-mêmes, quoi. Et puis les enfants, donc tout le monde dans le même sac. Et puis là, voilà, on retrouve, c'est ça, donc la femme qui n'existe plus, qui est diluée dans le couple, et puis dans cette valeur de procréation avec donc l'enfant.
Oui, et le couple, c'est vraiment la famille. Enfin, si c'est le couple et l'enfant, c'est donc bien la famille comme socle de la société, et c'est une valeur morale hyper forte, hyper rétrograde. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Moi, je suis super choquée. Enfin, vraiment, c'est des valeurs contre lesquelles je me bats réellement. La famille, pour moi, le couple, c'est un des lieux de violence contre les femmes aussi, hyper fort. Alors qu'un hôpital qui, dans les faits, va être un hôpital dans lequel les femmes
vont être obligées d'aller
pour soigner toutes leurs maladies, toutes les infections liées à leur biologie spécifiquement fille, quoi. Je sais pas, voilà. Et pas forcément liées à la fécondité, d'ailleurs. Il va s'appeler couple-enfant. Enfin, pour moi, vraiment, c'est un énorme retour en arrière, en fait. C'est un énorme backlash, et c'est aussi ce que les militantes, les anciennes militantes, enfin les anciennes... Les vieilles militantes des années 70 nous disent aussi. Ça continue, le backlash des années 80, là, il continue de revenir, le retour de bâton. Et moi, ça me fait vraiment cet effet-là très très fort.
Ouais, et du coup, on fait une spéciale dédicace justement à toutes ces militantes qui sont tant battues, en écoutant alors un morceau qui s'appelle...
Avortement d'État, encore une vieille chanson de nos mères.
Les femmes sont inconscientes, c'est de rester devant la loi, coupable de ce droit. Avortement d'État, sorcière de notre siècle, femme emprisonnée, femme jugée, sommes-nous en féodalité? L'enfant que tu n'as pas choisi, il va toujours, toujours te l'imposer. L'enfant que tu n'as pas admis, ils peuvent toujours, toujours te l'imposer. Leur loi, ils veulent les réformer pour que ta lutte soit étouffée. Avortement d'État, loi que l'on déguisa. Un jour de farce à l'Assemblée, sans nous y décider. Avortement d'État, encore leur profitera. Nous, celui qu'on avait appris, était libre et gratuit. L'enfant que tu n'as pas choisi, ils veulent toujours, toujours te l'imposer.
poser. L'enfant que tu n'as pas admis, ils peuvent toujours, toujours te l'imposer. Leur loi, ils veulent les réformer pour que ta lutte soit étouffée. Avortement d'État. Si les femmes sont inconscientes, ce n'est pas de tout ce silence, mais de leur force et de leur droit. Avortement d'État condamne encore les femmes, mais plus jamais on admettra qu'ils emprisonnent ce droit. L'enfant que tu n'as pas choisi, ils veulent toujours, toujours te l'imposer. L'enfant que tu n'as pas admis, ils peuvent toujours, toujours te l'imposer. Leur loi, ils peuvent les réformer pour que ta lutte soit étouffée. Mais plus jamais on admettra.
Donc, vous êtes toujours sur Dégenré, et voilà, où on vous parle de ce projet qui nous énerve sérieusement, d'hôpital couple-enfant. Et donc, on replongeait musicalement dans les années 70, et du coup, on avait envie justement de reparler du passage de la loi Veil pour clarifier un petit peu, puisque ça a été un moment politiquement fort dans l'avancée des droits des femmes, et du coup, on avait envie de clarifier peut-être un peu des choses là-dessus.
Voilà. Donc, c'était peut-être pour préciser par rapport à nos interventions précédentes que la loi Veil est importante, qu'à un moment donné, nous pouvons remettre en question, c'est non pas le fait que ce droit fondamental qui est d'avorter puisse être reconnu, c'est plutôt que ça continue d'être encadré par une loi qui, à l'époque, était de l'ordre du pénal. C'est-à-dire que c'était une loi qui ne dépénalisait pas l'acte d'avortement, donc était encore punissable, etc. Ce n'était pas une dépénalisation qui permettait à toute femme d'avorter librement. Voilà, c'est vraiment pour bien resituer l'importance de notre propos.
Oui, c'est le caractère restrictif de cette loi et le parcours culpabilisant des femmes, ainsi que l'interdit de publicité d'avortement que les militantes remettaient en cause.
Voilà, et du coup, on en revenait donc un petit peu à la situation actuelle et aux problèmes politiques que nous pose la création de cet hôpital couple-enfant. Donc, on parlait un peu des valeurs péténistes qu'on a l'impression qu'ils reviennent à l'ordre du jour, mais effectivement, dans un gouvernement sous un président Sarkozy, avec une Christine Boutin. Dans un ministère, etc. Rien de très surprenant. J'ai l'impression qu'il y a aussi ce qu'on peut vraiment retrouver là dans tous les articles de presse. Il y a quelque chose qui nous dérangeait beaucoup dans la communication qui était faite autour de... Dans la communication qui était faite autour de la création de cet hôpital couple-enfant, c'est une communication dithyrambique. Hein, c'est le progrès technologique, c'est une amélioration, etc. Mais effectivement, on a recoupé plein d'articles, que ce soit des journaux internes, que ce soit de la presse grand public, etc. Et on ne parle pas des femmes. C'est vraiment...
Ah, mais le mot femme, je crois, n'apparaît quasiment pas. On parle des enfants, on parle des mères, on parle des couples, encore une fois, beaucoup. De famille.
De procréation, de périnatalité.
Alors, plein de mots super techniques que personne comprend, alors ça noie bien le poisson aussi, quoi. Mais alors, le mot femme, il disparaît complètement. Et c'est ça, vraiment aussi, pour moi, le problème, c'est que la disparition du CMSF, du Centre Médico-Social des Femmes, enfin, de la femme, le fait qu'il disparaisse ou qu'il soit plus ou moins intégré au milieu de l'hôpital couple-enfant, il y a vraiment quelque chose d'hyper fort qui est en train de se passer, là, de négation, en fait, des spécificités... médicale des femmes pour ce qui est des questions liées effectivement aux organes reproducteurs, mais qui ne sont pas forcément liées à l'idée de la fécondité. Mmh. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment un amalgame hyper fort là qui se fait entre Les femmes, quand même, vous savez, ces personnes-là, avec des bras, des yeux, un cerveau, plein d'autres choses, et aussi un utérus, des ovaires, mais c'est pas que. Et alors voilà, donc hop, leurs organes reproducteurs, et hop, les fonctions de ça, donc la maternité, donc la famille, enfin, un truc très très fort pour moi
de réduction, en fait, ce que sont les femmes.
Et oui, c'est des valeurs qui craignent, en fait, c'est des valeurs anti-féministes, en fait, et même contre les femmes, en fait, misogynes et...
Voilà, et du coup, c'est bien, on a l'impression que c'est vraiment, effectivement, ça correspond bien à notre société actuelle où on fait comme si le féminisme s'était dépassé. Vous savez, comme si les femmes, elles avaient tout obtenu, elles avaient obtenu des conditions de travail idéales, des conditions de vie sociale idéales, des conditions, effectivement, affectives idéales. Et donc, il n'y avait plus de lutte à mener. Et donc, il n'y avait même plus besoin de les mentionner, en fait. Il n'y avait même plus besoin de les prendre en compte. Et donc, elles se dissolvent, effectivement, dans la notion soit de couple, soit de maternité. Et justement, c'est vraiment la maternité qui est mise en valeur. Et c'est comme si aussi ça redevenait une valeur un peu suprême. Vous savez, d'ailleurs, effectivement, la statue qu'ils veulent mettre, c'est ça, c'est l'épanouissement de la maternité, la beauté, etc. Je crois qu'on a des petits bouts de texte qui illustrent bien cette magnificence de la maternité.
Alors déjà, dans la justification d'une œuvre d'art à l'hôpital, encore les femmes ne sont pas citées. Hein, donc il y a les patients, les familles, les visiteurs qui doivent pouvoir se détendre en voyant une belle œuvre d'art.
Les enfants aussi.
Les enfants doivent se détendre beaucoup. Les femmes, bon, de toute façon, à quoi ça sert de vous détendre ? Mais vous n'avez pas de nerfs. Il faut croire. Alors, la recherche d'une œuvre qui touche à la fois les patients, les familles, les visiteurs et les professionnels, en apportant de la gaieté et de l'optimisme, nous a amenés à choisir l'œuvre d'une artiste centrée sur la femme et la maternité, thèmes principaux de son travail. La sculpture « Envie de vie » est une manière originale de présenter l'ensemble des activités de soins proposées dans le nouvel hôpital en réduisant la dimension angoissante liée au séjour hospitalier. Sculpture colorée et gracieuse, représentant une jeune femme alerte, rayonnante, une mère jouant avec ses enfants, occupée à chanter, à rêver, symbole de la maternité épanouie, de la joie de vivre, de la tendresse et de l'optimisme. Cette œuvre fédératrice donnera au nouvel hôpital une identité forte et positive.
Alors, les provis applaudissent à deux mains, là.
Voilà. Non, ils ne sont pas contents, parce que sur la statue, il faut savoir qu'en fait, il y a des débats.
Dans le projet de départ.
Dans le projet de départ, il y a des gros débats.
Parce que cette statue, à cause des portes jartelles, Marie.
Elle porte des portes jartelles. Et ça, c'est immoral, quand même.
Quand même. Franchement, les femmes, aujourd'hui, ce ne sont des mères, mais sexy. Hein ?
Oui, c'est ça. Ça correspond bien aux critères actuels. Et du coup, tout ça crée vraiment un enfermement complet des femmes. Et puis, j'ai l'impression que ça invisibilise complètement cette possibilité d'avorter, en fait. Cette possibilité de choisir de ne pas avoir de maternité du tout et de ne pas avoir aussi, de ne pas avoir les moyens, de ne pas pouvoir, etc., avoir une maternité heureuse, épanouie, etc. Et du coup, c'est vraiment comme si il fallait vraiment continuer à culpabiliser d'avorter, que c'était toujours quelque chose de problématique et que dans le meilleur des cas, ça restait un mal nécessaire. Et je crois que dans tout le rapport, il y a tout un rapport donc dont on vous a rapidement parlé tout à l'heure de l'association Pro-Choix à Toulouse. Et il est vraiment question de ça, en fait, de comment la culpabilité que les femmes ont toujours par rapport à l'avortement fait que ça leur rend tout leur parcours par rapport à la fécondité extrêmement difficile. Et que si il y a toujours quand même un nombre important d'avortements en France aujourd'hui, c'est pas parce que les femmes sont irresponsables ou parce qu'elles n'ont pas eu accès forcément assez à des moyens de contraception, même si c'est le cas quand même parfois de pas avoir assez d'informations, etc. Mais c'est surtout lié à la culpabilité en fait qu'elles ont d'émettre la possibilité d'avorter. Et cette culpabilité-là, eh ben, je trouve qu'elle est, complètement... on continue complètement là-dedans, en fait, en niant leur réalité, en fait. Et du coup, pour nous, c'est se dire, mais avec ces politiques-là, on va continuer à faire face à des avortements et potentiellement mal vécus et mal encadrés, quoi.
Ce qui peut mettre en colère, ce n'est pas l'acte d'avorter dans sa vie. C'est toutes les conditions qui sont mises en œuvre autour de cet acte-là pour te dire, de toute façon, il ne faut pas que tu parles trop fort de comment tu es infantilisé ou comment tu es maltraité, parce que déjà, tu avortes. Alors, tu as de la chance, donc ça suffit. Et je crois que ce sont toutes ces conditions aussi et toutes ces violences quotidiennes, ordinaires, culpabilisantes ou infériorisantes. Voilà, je crois que c'est vraiment tout ce contexte autour de l'avortement et non pas de l'acte d'avorter qui est fondamentalement à remettre en question et à être vigilante très quotidiennement.
Et nous avons très très peur pour ce prochain hôpital couple-enfant, parce que, comme vous le décriviez au début, les personnels seront plus forcément des personnels qui travaillent... Le CMSF, le Centre Médico-Social de la Femme, les personnes qui travaillaient là travaillaient dans ce centre où il y avait principalement des IVG, c'est ça ? Uniquement des IVG. Donc c'était des personnes qui étaient formées pour pratiquer des IVG, accompagner des IVG, accompagner des femmes qui allaient avorter. Là, dans cette nouvelle structure, les personnels seront, comme ils disent, polyvalents, mais ça signifie aussi qu'elles ne seront pas forcément formées, que du coup, on pourra être accompagné dans son avortement par quelqu'un qui, voire même peut-être, ne sera pas tout à fait d'accord avec l'avortement. Enfin, on n'en sait rien, en fait. On a le droit d'être inquiète sur ce qui se profile là de quelque chose qui ne prend pas soin. Enfin, de toute façon, on n'en parle même pas. Comme on annonce cet hôpital, c'est pas présent, les avortements. On sait que ça va avoir lieu dans un coin de couloir, mais on peut être inquiète de quelles conditions vont être amenées pour ces femmes-là.
Et on est d'autant plus inquiète que ça semble un truc de valorisation pour les politiciens, la création de cet hôpital couple-enfant, de grande valorisation de leur politique, comme l'exprime Michel Destot dans une interview.
Au final, l'hôpital couple-enfant offrira au public un accueil de très haut niveau, faisant de cette structure médicale un véritable pôle de référence, non seulement de l'agglomération grenobloise, mais aussi du sillon alpin et de la région Rhône-Alpes.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole encore des paroles que tu sais mon mot.
Parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques,
savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais...
Voilà, donc vous l'aurez compris, une musique dédiée donc de Dalida qu'on apprécie beaucoup, dédiée à Michel Destot, voilà pour ses belles paroles bon, qui n'ont aucun sens, voilà. Alors pour terminer, je crois qu'on avait envie de poser alors ce qu'on peut appeler des revendications, en tout cas des choses fortes qu'on exige et que voilà sur lesquelles on a envie de se battre par rapport à cette situation, notamment à cette situation locale avec la création de cet hôpital couple enfant.
Déjà, la première chose qu'on voulait dire, c'est qu'on critique la politique de santé globale qu'il y a derrière cet hôpital. C'est-à-dire, ils font une série de pubs autour des pôles de compétences et des regroupements de compétences. Or, l'idée quand même qu'il y a derrière ça, c'est de la suppression de personnel et de faire en sorte que le personnel médical soit polyvalent. Alors, ils nous disent ça va augmenter la santé et diminuer le haut risque périnatal et tout, les choses très dangereuses qui nous attendent. Or, voilà, on avait envie de dire que c'était pas forcément vrai, quoi. Parce que moins de personnel et du personnel polyvalent, c'est souvent des moins bons soins. Et aussi que la technification de la prise en charge médicale, par exemple de l'accouchement ou de l'avortement, se fait souvent contre le côté humain, le suivi, et aussi le fait que les individus puissent faire des choix qui sont adaptés à chaque cas, quoi, chaque situation particulière. On va leur donner un parcours technique alors que chaque cas nécessite des choix différents, en fait.
Toujours à propos de cet hôpital couple enfant, nous demandons la suppression du nom et de la statue qui se situera dans l'entrée, qui rappelle tous les deux l'échec de la femme qui vient, ou même de l'homme, mais principalement de la femme, qui vient de faire une fausse couche, qui vient faire un IVG, qui vient se faire soigner pour un cancer de l'utérus, du sein, lui rappeler juste l'échec qu'elle a de ne pas avoir d'enfant ou tout simplement de ne pas être en couple dans cette société.
Et puis on exige aussi donc un bon accompagnement des femmes par leurs proches, mais aussi bien que par une équipe qui les suivrait de façon constante, c'est-à-dire tout le temps les mêmes personnes pour pouvoir être en confiance. Et puis pouvoir poser des questions, avoir des informations fondées sur des preuves scientifiques et non pas des positions dogmatiques. On exige donc pour cela une formation des professionnels et des étudiants aux diverses pratiques d'IVG et aussi d'être formés à l'écoute, à l'accueil, pour permettre et aider les femmes à faire leur choix elles-mêmes. Et puis donc, offrir aux femmes des personnels qui ont des compétences diverses.
Voilà, donc on continue la liste de ces revendications. Attention, c'est énorme, c'est pas fini.
On en a beaucoup. Alors moi, ma revendication, c'est... Non, mais on a une liste, on s'est partagé. Alors, moi, je veux des réels locaux. Voilà, hein.
Adapté et tout et tout.
Adapté, agréable, visible, balisé, que ce soit pas relégué au fond d'un couloir comme si on en avait honte. Moi, je ne vois aucune raison d'avoir honte. C'est dur, c'est pas forcément facile d'avorter. Des fois, c'est un moment de sa vie compliqué, pas agréable, plein de choses. C'est pas une raison pour en plus avoir l'impression qu'on fait un truc dont on devrait vraiment avoir honte et tout ça. Donc oui, les locaux peuvent être visibles, ils peuvent être fléchés et balisés clairement. Les locaux pour avorter sont par là, peuvent être agréables. On peut rendre un peu plus agréable l'avortement. On n'est pas obligé encore plus de nous faire sentir que ça ne va pas être une partie de plaisir et qu'en plus, vous ne croyez pas que vous allez pouvoir avoir des palmiers dans votre chambre pendant que vous avortez. Parce que il y aura des salles d'accouchement avec des démédicalisés, avec peut-être des beaux palmiers en hologramme et tout. Alors on s'est dit que pourquoi pas aussi pendant qu'on avortait, moi je trouve. Bon, pardon, c'est un peu une blague, mais c'est pour dire, voilà, on veut des vrais locaux. Et on veut surtout que ce soit présent dans la communication. quand nous entendons parler de ce futur hôpital là, qui sera extrêmement moderne, très technologique, parlons aussi des avortements. Voilà. On voulait aussi parler de la valorisation de la santé des femmes, qui n'apparaît pas du tout aussi dans la communication sur ce futur hôpital. Et vraiment, on en a déjà parlé sur ce rapport entre gynécologie et fécondité. Enfin, médecine en rapport avec les femmes et la fécondité. On aimerait que ce soit pas toujours en rapport. Que ce soit visible aussi que dans cet hôpital-là vont avoir lieu des opérations médicales ou chirurgicales qui n'ont pas de rapport avec la fécondité. Cancer du sein, pas forcément de rapport. Cancer du col de l'utérus, j'en sais rien, ablation d'un ovaire, kyste, n'importe quoi. Ça n'est pas du tout visible, que voilà. À toi, Marion.
Alors moi, je veux un accès libre à l'IVG toujours, c'est-à-dire sans condition d'âge, de sécu, de papier et également de durée, c'est-à-dire de pouvoir avorter. C'est moi qui décide jusqu'à quel moment je veux avorter. Également, les moyens nécessaires pour l'application des nouvelles lois, c'est-à-dire que les nouvelles lois soient vraiment mises en application par les structures hospitalières et pour que les choix des conditions d'avortement soient totales et sans culpabilité. Je veux et j'exige une éducation sexuelle qui présente une diversité des pratiques sexuelles, des pratiques de contraception et aussi des pratiques de protection face aux IST, aux infections sexuellement transmissibles, avec des campagnes ciblées par rapport aux spécificités. Voilà, j'ai une sexualité spécifique, j'ai donc besoin d'une information spécifique. Et je veux une reconnaissance que les provis sont une atteinte aux droits fondamentaux des femmes quant au choix d'avorter. Tout rassemblement provis public va à l'encontre et est une atteinte à ce droit fondamental d'avorter.
Sur les moyens pour appliquer la loi, il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut faire des avortements soit chirurgicaux, soit médicamenteux, qu'on a le droit de faire des IVG médicamenteuses à la maison, mais pour cela, il faut des docteurs qui aient signé des conventions. À Grenoble, il n'y en a eu qu'un. Donc, quand on dit les moyens nécessaires à ce que tous les choix soient possibles pour les femmes, il faut des formations et des moyens pour former les médecins et, par exemple, les internes qui, dans une récente étude, veulent être formés à ça en majorité, alors que ce n'est pas fait.
Voilà, et peut-être ça, c'était pas forcément très clair tout à l'heure, qu'il y a vraiment cette idée que actuellement, l'acte pratiqué d'IVG est très peu payé, en fait, rémunéré au personnel médical. Et voilà, comme dans tout milieu professionnel, les actes les moins bien rémunérés sont les moins recherchés, les moins prisés et valorisés chez les professionnels. Et du coup, ce qui peut expliquer qu'il n'y ait qu'un professionnel à Grenoble qui pratiquent ces IVG médicamenteuses. Alors je crois que plus globalement, en fait, ce qu'on a envie de dire, c'est que nous, en tant que femmes, on se sent complètement légitime à porter un regard, une réflexion, un discours sur ce qui nous concerne, donc notamment sur ce projet d'hôpital couple-enfant. Et on estime que c'est le cas, c'est le cas pour toutes les femmes, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont concernées par tout ce qui va se tramer là-bas. Et du coup, on se sent tout à fait légitime donc à y réfléchir, mais aussi peut-être à agir dessus. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser faire des choses comme ça qui nous enferment dans des rôles reproducteurs qu'on refuse, etc. Et puis on considère aussi que c'est pas seulement aussi un champ pour les spécialistes, c'est pas seulement aux scientifiques, aux médecins, aux chercheurs, mais aussi aux architectes ou aux politiciens
ou aux spécialistes de la démocratie participative.
Voilà, qui font des consultations à deux balles pour dire est-ce que vous êtes d'accord avec ce projet ? Oui, c'est tant mieux. Et on a à peine le temps de répondre. Voilà.
Pour choisir la couleur des rideaux.
Voilà, c'est ça. Et puis pour choisir pour choisir si c'est Ronald, McDonald ou Quick qui va financer la salle d'accueil. Enfin voilà, vous voyez ces choix profonds. Et voilà, donc on a une vraie volonté d'agir par rapport à ces réalités aussi locales, parce que aussi à un moment c'est des choses qui se passent près de chez nous, donc on se dit qu'on peut s'organiser collectivement pour agir là-dessus. Alors je crois qu'il y aura des appels, enfin on a envie de lancer des appels à mobilisation très largement, que ce soit voilà, les femmes, là, vous qui nous entendez, chez vous, dans vos familles, à votre boulot, etc., que ce soit les collectifs, les associations, et puis aussi les hommes, parce qu'on a bien envie de rappeler que toutes ces questions aussi autour de la contraception, etc., il n'y a pas de raison que ce soit que les femmes qui les portent. Et du coup...
En général, quand une femme tombe enceinte, il y a eu un homme quelque part.
Voilà, donc on peut dire aussi que puisqu'apparemment à l'hôpital couple enfant ils veulent développer la recherche, et ben peut-être ils pourraient mettre des gros moyens pour développer la recherche sur la contraception masculine, puisque c'est le cas quasiment nulle part. Voilà, donc il y a des choses très concrètes à faire comme ça. Donc on lancera des rendez-vous, que ce soit d'information, mobilisation, etc. Donc vous pourrez suivre ça par exemple sur le site d'Indymedia Grenoble. Donc vous tapez sur un moteur de recherche Indymedia Grenoble et puis vous allez tomber dessus. Et puis, de manière plus immédiate, si vous avez envie de plus d'infos ou de nous contacter pour nous transmettre aussi vous des infos, voilà, n'hésitez pas à nous écrire sur Dégenré. Donc notre adresse Dégenré, c'est...
C'est Dégenré, D-E-G-E-N-R-E-E. @boum.org.
Voilà, donc je crois que la lutte va continuer. Hein.
Avant de vous laisser, on avait quand même aussi envie de vous donner le contact du planning familial. On a beaucoup parlé ce soir d'avortement, hein, parce que nous, on veut en parler, justement. On ne veut pas laisser ça dans le silence. Si vous avez la nécessité de contacter, de trouver des gens, des personnes ressources pour parler aussi d'avortement, le planning familial à Grenoble est vraiment un lieu ressource pour ça, pour parler de sexualité de façon générale, pour se procurer une contraception. Si on est mineur, c'est gratuit, c'est sans l'autorisation des parents. Donc voilà, important de donner le contact du centre du planning familial à Grenoble. C'est 30 boulevard Gambetta, donc en centre-ville. Et c'est le 04 76 87 94 61. 04 76 87 94 61. Il y a aussi des plannings familiales à Saint-Égrève, à Bourgoin-Jallieu, à Villefontaine. Et il y a des centres de planification. C'est un peu différent, mais c'est aussi des lieux de ressources. Il y en a dans le quartier de l'Abbaye, à Vieux-Temple, à Tesserre, à Prémolles. Voilà.
Vous pouvez aussi chercher dans l'annuaire planning familial ou centre de planification. Voilà, donc on...
Et peut-être avant de partir aussi, après ces recherches, on va sûrement écrire des revues ou des brochures concernant à la fois l'histoire de l'avortement à Grenoble et à la fois sur... l'hôpital couple enfant, donc qui seront disponibles bientôt, et où aussi seront développés un peu quels droits vous avez la possibilité de revendiquer, par exemple le droit de se faire stériliser qui est passé dans la loi et qui n'est pas encore appliqué, enfin des choses comme ça.
On va pouvoir vous laisser avec une dernière chanson. Ah, Anaïs, tu voulais dire quelque chose.
Vas-y. Au revoir.
Au revoir. Et
Merci beaucoup à Anaïs, à Virginie, d'être venue avec nous faire cette émission. Et puis, merci à Dino pour la technique.
Et notre corps continue à nous appartenir, hein, quoi qu'ils en disent.
Notre corps nous appartient. Et cette émission est rediffusée lundi prochain, si vous souhaitez la faire découvrir et connaître par d'autres personnes. Et la prochaine émission des Genrés aura lieu le 26 décembre.
Alors, on se quitte avec une chanson des Lesbiennes en Extasie qui s'appelle « Révolte ».